Salut Cafard.
Salut Cancrela.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Cafard.
Bonjour Monsieur Mythe, comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
T'es prêt pour une nouvelle blablette?
Oui, oui, oui.
Toujours dispo?
Toujours dispo, j'aime bien, ça me plaît.
Ah, tant mieux.
Je commence à m'installer, je prends mes aises comme la Mythe au fond de son armoire, au chaud dans le linge, ou plutôt dans une bibliothèque, je me serais installé. Voilà.
Ouais.
Mais je respecte les bouquins, je les bouffe pas. Enfin si, je les dévore.
Mais... Oui, mais pas au sens littéral.
Non.
Au sens figuré.
Bien sûr.
Oh.
Je suis une mythe littéraire.
Donc, alors, une nouvelle émission des blablates.
Ouais, et tu vas parler de quoi toi, Cafard?
Moi je vais parler d'un...
Un indice, on donne pas tout de suite le thème ou le titre aux auditeurs de trouver.
On va faire pousser un peu. Donc c'est un grand classique de la littérature anglaise.
Ouais.
Où il y a une
Dracula.
Histoire d'amour, tata.
Ah si, il y en a une dans Dracula.
Ouais, il y en a une dans Dracula. Et j'en dirai pas plus, et puis après, je vais vous mettre une musique qui donne un indice aussi sur le titre. Et toi alors?
Je parle d'un thème de littérature jeunesse, c'est comment faire de vos enfants de petits bolcheviks.
Ouais, tout un programme.
N'est-ce
quoi.
Pas
Super. Allez,
on lance
la musique qui va
mystère.
Nous donner un petit indice. Attention, suspense.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle artificielle. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle.
Alors,
on est sur CFM 107.9.
Ouais.
C'est les blablates.
C'est toujours les blablates, ouais. Sur CFM 107.9 à Rodez.
Et c'était Louise Attaque, Je t'emmène au vent.
Exactement. Donc, est-ce que vous avez deviné de quel livre on va parler?
Bah, c'est évident. Typhon de Joseph Conrad. Le vent, la tempête, tout ça. Classique anglais.
Ouais, ou Moby Dick. D'Herman Melville.
Non. C'est anglais ça ou c'est américain?
Ah, bonne question.
Melville, je trouve que c'est américain.
Non. Tu me mets le doute, ouais. Je sais plus si c'est anglais ou américain. Bon, en tout cas, c'est ni l'un ni l'autre.
Ah merde.
Parce que là, il n'y a pas d'histoire d'amour.
Ah bon?
Remarque le sujet dont tu as parlé, je ne l'ai pas lu.
Typhon, non, il n'y a pas d'histoire d'amour. Ça.
On va parler de... Oh, non, ça y est, j'allais dire la connerie.
On en parlait pendant la musique. Donc, Cafard ouais. Confond, Autant n'emporte le vent, et le livre dont elle va parler maintenant.
Les Hauts de Hurlevent.
Le vent, voilà.
Voilà. Et ça, moi, dans ma petite tête, avant de lire Les Hauts de Hurlevent, c'était la même chose. Mais c'est pas la même chose,
pas
en fait.
Tout.
Pas du tout. Donc, Autant n'emporte le vent, en fait, je l'ai jamais vu, ni lu, ni quoi que ce soit, donc je sais même pas de quoi ça parle.
Et on n'en parlera pas.
Exactement. Et on va se concentrer sur Les Hauts de Hurlevent, publié en 1847 par Émilie Brontë. Ouais, la classe. Mmh. Donc, 1847, Émilie Brontë, qui le publie sous le pseudonyme d'Élise Bell. Tout simplement, pourquoi? Parce que bah à l'époque, les femmes c'était mal perçu en littérature et puis d'une manière générale. Et donc du coup, pour mieux faire passer la pilule, elle a fait passer sous un pseudonyme masculin, tout simplement. Les Hauts de Hurlevent, c'est considéré comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature anglaise et même de la littérature mondiale. C'est vraiment considéré comme un grand, grand, grand classique. Et ce qui est quand même assez énorme, je trouve, c'est que c'est le premier et le seul roman d'Émilie Brontë. Et c'est une tuerie, quoi. Mmh. Enfin, elle en a écrit un, et il est best.
Il y a des auteurs d'un seul livre, comme ça.
C'est ça. C'est fou, hein.
Comme Le Grand Maul d'Alain Fournier. Ou...
C'est ça. Mais comme celui dont j'avais parlé la dernière fois, Patrick Susskind, Le Parfum.
Oh, il en a écrit plein, oui.
Ouais, enfin, il en a écrit plein, mais bon,
il est connu pour celui-là.
Le plus connu, le mieux, est quand même Le Parfum. En tout cas, Émilie Brontë, elle n'a pas écrit d'autres romans. Par contre, elle a écrit beaucoup de poésie. Donc, elle est assez connue pour ses poèmes, mais... Et puis surtout pour Les Hauts de Hurlevent. Putain, je vais la faire à chaque fois.
Alors d'où ça vient ça? C'est quoi Hurlevent et...
Tout simplement, l'histoire se passe dans les Landes anglaises, dans la région du Yorkshire. Et du coup, il y a beaucoup de landes, de bruyères, etc. exposées aux quatre vents. Et du coup, voilà.
C'est un lieu dit, non, c'est ça, Hurlevent.
Oui, c'est ça, ouais. C'est un lieu dit Hurlevent. Tout simplement, voilà, parce que c'est aux quatre vents. Et donc, il y a... La campagne anglaise, quoi. Très peu de fourrés, beaucoup de landes, beaucoup de bruyères.
Bon, un peu l'Aveyron aujourd'hui, là, au jour où on enregistre. C'est voilà. Un peu les Hurlevent. Ouais.
Mais c'est exactement ça. Ouais. Quand j'ai préparé ma chronique, je me disais, waouh, c'est super, on est raccord, là. Hein. J'avais le vent qui soufflait de partout. C'est exactement ça. Donc, Émilie Brontë, elle fait partie d'une famille très connue, la famille Brontë, où, en fait, ils ont fait plein de trucs, du coup. Monsieur Mitte.
Oui.
Cite-moi une autre sœur Brontë et t'auras gagné un bonbon.
Attends, là c'est Émilie là, hein, c'est ça?
Oui, c'est Émilie.
Jeanne, non, Anne.
Non.
Anne oui, et Anne. Charlotte.
Voilà, Anne et Charlotte, c'est ça. On a Anne Brontë et Charlotte Brontë. Et donc les deux plus connus, c'est Émilie Brontë et Charlotte Brontë.
Il y avait Morissette aussi, mais elle a rien fait. Je crois que c'est une cousine d'ailleurs.
Et donc Charlotte Brontë, juste, elle est connue pour des romans. Elle a écrit plusieurs romans, dont le plus connu, c'est Jane Eyre.
Ouais.
Qui a été publié à peu près à la même époque, en fait. Je crois que c'est en, je sais plus si c'est en 1847 ou 1848. Mais en tout cas, à l'époque, même si Léo d'Hurlevent a eu un gros succès, celui de sa sœur avec son roman l'a supplanté, en fait. Mm-hmm. Mais sauf que maintenant, on considère que Léo d'Hurlevent est meilleur que Jane Eyre.
D'accord.
Même si il est très bien aussi.
D'accord.
Enfin, je sais, en fait, j'en sais rien, je l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il doit être très bien.
D'accord.
Donc. Émilie Brontë, ce qui est assez fou, c'est qu'elle a écrit une histoire, vous allez voir, très une histoire de passion dévorante, de cruauté, de manipulation psychologique, etc. Alors que c'est une jeune fille qui est jamais sortie de chez elle, à part pour faire ses études une année à Bruxelles. Et sinon, elle est toujours restée cloîtrée dans sa famille. Et elle est morte à 30 ans de la tuberculose. Alors, voilà, elle a pas eu une vie vraiment, comment dire, aventureuse, quoi.
Elle semblait pas avoir une grande expérience de vie, mais les études et la lecture, l'ont remplacée.
Par contre, dans Les Hauts d'Hurlevent, on sent vachement justement sa culture littéraire, quoi. Mmh. Parce que ça fait très tragédie antique, ça fait ça, il y a une ambiance aussi assez particulière qui rappelle tout ce qui est roman gothique. Je sais pas si tu vois.
Ouais.
Le roman gothique, donc justement. Bram Stoker, Dracula.
C'est vrai que le tout début du livre où il y a un narrateur.
Ouais, c'est ça.
On croit que c'est lui qui va être le héros du roman. Finalement, il disparaît dès les premiers chapitres. Et on a l'impression que on va tomber dans un roman fantastique.
Ouais.
D'après mes souvenirs, je l'ai lu il y a quelques années, ça. Et on a l'impression qu'il va y avoir des fantômes qui apparaissent. Et puis non. On retombe dans une histoire, comme tu dis, de tragédie, de voilà. drame.
C'est ça. C'est vraiment une tragédie familiale, quoi. Mmh. Parce que là, ça tourne autour d'une famille, enfin, de deux familles, puisqu'après, il y a des histoires de mariage, etc. Mais globalement, c'est centré sur une famille, quoi. L'histoire, justement, est très, est assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de trahisons, beaucoup de morts aussi, de remariages, etc. Donc, je vais pas rentrer dans le détail pour vous laisser un petit peu le plaisir, quand même, de lire le livre, hein. Parce que vous allez forcément lire le livre, bien sûr.
Oui.
Mais je voulais quand même vous lire juste tout simplement la quatrième de couverture de mon livre, en fait. Les hauts de Hurlevent sont des terres balayées par les vents du Nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Monsieur Earnshaw avait adopté et aimé Heathcliff. Mais ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son bienfaiteur, Heathcliff prépare une vengeance diabolique. Il s'approprie la fortune de la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur toute la descendance jusqu'au jour où la fille de Catherine aimera à son tour un être misérable et frustre. Voilà. La difficulté, en fait, c'est que ça se passe sur 40 ans. C'est une histoire qui se passe sur 40 ans. Et donc, au début, c'est l'enfance de Heathcliff et de Catherine. Ensuite, tout le bordel qui se passe après. Et ensuite, en fait, Catherine meurt au milieu du roman, à peu près, alors que c'est quand même le personnage principal. Avec Heathcliff, c'est les deux protagonistes, quoi. C'est le Roméo et Juliette, en fait, de l'histoire.
J'allais le dire, ouais.
Et du coup, après, on bascule sur la vie de sa fille. Parce qu'elle a eu une fille, et puis elle est morte 3 semaines après avoir donné naissance à sa fille. Et donc, du coup, on a vraiment aussi ce décalage où on voit les personnages évoluer. Surtout Heathcliff, parce que du coup, Heathcliff, on le voit du début à la fin, quoi. De quand il arrive dans la famille, quand il est adopté par la famille, jusqu'à sa mort. Donc ce qui est intéressant, c'est justement cette intrigue très complexe qui s'étale sur 40 ans où on a toute une intrication des familles, voilà, c'est les deux familles qui sont liées et surtout les personnages qui sont super complexes. Là, on est vraiment dans du roman psychologique mais de qualité, quoi. Tu te rappelles Heathcliff un peu ce personnage ou pas ?
C'est un personnage qui arrive de nulle part, on sait pas si le père un jour le ramène. On sait pas très bien non plus pourquoi, il débarque comme ça et il l'adopte et ouais, il a un côté un peu diabolique. Il redisparaît pendant quelques années plus tard aussi.
Pendant 3 ans.
Il revient. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et il revient se venger et prendre possession de la propriété de la famille.
C'est ça. Et c'est assez fou parce que le père le ramène, Heathcliff, un petit bohémien. Voilà, on nous dit qu'il a un peu le teint bronzé, etc. Donc déjà, il jure avec la société anglaise de l'époque, puisque ça se passe dans les années 1800, quoi, à peu près 1830. C'est vrai qu'on sait pas trop pourquoi le père l'a ramené. On peut supposer que c'est peut-être un de ses bâtards, en fait. Mais c'est pas dit clairement non plus. Donc on sait pas, en fait. Il va rester là, dans la famille. Mais le fils légitime du propriétaire ne l'acceptera jamais et va tout faire pour lui rendre la vie le plus difficile possible. La fille du propriétaire va, en quelque sorte, tomber amoureuse de lui au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, c'est plus un amour fraternel. Et puis après, avec l'adolescence, etc., les sentiments évoluent. Et puis, comme tu dis, à un moment, il va partir, parce que justement, sa sœur Catherine va épouser un autre homme. Et du coup, il part. Il part pendant 3 ans, et quand il revient de ces 3 années, il est riche, en fait. Donc on ne sait pas trop comment il a acquis cette richesse, mais en tout cas, il revient riche. Et là, après, il va mettre en place tout un plan diabolique pour réduire à néant toute la famille, quoi. Et pour essayer de récupérer Catherine aussi, mais tout en la détruisant. Enfin, voilà, c'est vraiment... On n'est pas du tout dans l'amour à la Roméo et Juliette, là, Bisounours et compagnie. Au contraire, là, c'est vraiment l'amour déchirant, la passion dévorante. Mais la passion où il se passe rien, en fait. Hein, parce que concrètement, peut-être qu'il y a eu quelques bisous, mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas...
C'est assez violent, quand même. Enfin, il y a des passages très, très violents, très durs.
Ouais, hein. Ouais.
Il se marie, je crois, lui... Donc, Heathcliff se marie à un moment donné avec, alors je sais plus la.
Avec la belle-sœur de Catherine, justement. Ouais. C'est-à-dire que Catherine, elle s'est mariée avec.
Il l'a séduit.
Edgar. Ouais. Et du coup, quand lui revient et qu'il voit ça, il séduit la sœur d'Edgar. Mmh. Et il se marie donc avec Isabelle.
Enfin, c'est dit entre les lignes, mais enfin bon, il la séduit, elle se rend compte un peu trop tard de son erreur, du personnage que c'est, et en gros, enfin, elle se fait violer un peu le soir des nuits de noces, quoi.
Ah oui, non, mais c'est très cruel comme livre, ouais. C'est vrai que C'est pas du tout au monde des bisounours, hein. C'est torture psychologique, c'est humiliation,
séquestration.
Enfin, c'est, il y a vraiment des choses assez hallucinantes dans ce roman, mais qui le rend captivant, quoi, parce que la cruauté est tellement intense qu'elle est fascinante, en fait. Tu vois, tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, mais pourquoi il fait ça? Mais non, mais là, il va pas faire ça, c'est pas possible, etc. Et puis on dit, Heathcliff, il est méchant. Mais franchement, ils le sont tous, quoi. Ils le sont tous. Son frère adoptif, Hindley, il est assez horrible dans...
C'est des aristocrates, voilà. de basse extraction, quoi, qui essaient de péter plus haut que leur cul, je crois.
Ouais, et, c'est ça, l'idée.
Enfin, ou qui essaient de tenir un statut social, quoi. Ils tiennent des fermes, en fait. C'est l'aristocratie anglaise qui a quelques fermes pour vivre, quelques vallées, quelques terres, dont ils ont les rentes. Et, alors la famille, est assez pauvre. La belle famille est plus riche, je crois.
Oui, tout à fait. Ouais. La famille d'Edgar et Isabelle est beaucoup plus riche, oui. Et puis beaucoup plus raffinée aussi. Enfin, comme tu dis, la richesse, c'est pas la même, hein, quoi. Ouais. Donc, ouais, ils sont tous les personnages, à peu près, ont quand même, voilà, ce que j'aimais dans ce roman, c'est ça, c'est le côté, c'est pas édulcoré, quoi. C'est la vie dans toute sa cruauté et les relations humaines dans toute leur complexité et dans toute leur cruauté aussi, parce que des fois, ça peut être cruel, quoi. Donc, Heathcliff, Catherine ne finissent pas ensemble. Parce que, en fait, là, on est vraiment dans ce côté tragédie racinienne et grecque, etc. Dans le sens où, en fait, à un moment, Catherine, Edgar la demande en mariage et elle hésite plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle sent qu'il faut qu'elle se marie avec Edgar, mais que concrètement, elle est beaucoup plus amoureuse d'Heathcliff. Et elle en parle à sa domestique. Et c'est ce passage-là qui est relaté. Et en fait, c'est assez fou parce que, à un moment, elle dit, je ne peux pas être avec Heathcliff. Dans le sens, il est pas de la même extraction sociale que moi. Donc, je peux pas. Et en fait, Heathcliff, il entend ça. Et il n'entend pas tout le reste qui va suivre. Et tout le reste, c'est une magnifique déclaration d'amour où elle affirme qu'au contraire, elle l'aimera toujours que lui, etc. Mais lui, il n'entend que ça. C'est vraiment, tu sais, le truc dans les tragédies, là, à la con, où on n'a que la mauvaise info, quoi. Et c'est à partir de là que tout part en sucette, parce que du coup, lui, il part. Elle se résout à se marier avec Edgar. Il revient. Toutes ces histoires, ça la rend malade, elle. Elle accouche, elle meurt. Et ensuite, Heathcliff, il va faire des choses horribles aux enfants de son frère adoptif, aux enfants de Catherine, etc. Enfin, à l'enfant de Catherine, puisque Catherine donc a accouché d'une petite fille qui va s'appeler Catherine aussi, et qu'on surnomme Cathy, et qui est assez semblable à sa mère, quoi. Un peu moins capricieuse, mais c'est à peu près les mêmes, quoi. Et donc, Heathcliff aussi, il a du mal avec ça, parce qu'il la voit, il revoit sa mère dans sa fille, quoi. Et Heathcliff, il va faire un truc pareil, il va manigancer un truc où il va faire en sorte que Catherine se marie avec son fils à lui pour récupérer l'argent de l'autre maison aussi. C'est ce qui se passe, sauf que le fils en question meurt. Et après, Catherine, elle commence à tomber amoureuse du petit Harton, qui est vraiment le fils de Hindley. Ouais, c'est super compliqué. Hein. C'est vraiment le truc... Le fils de...
Qui est Hindley?
Hindley, c'est le frère adoptif de...
De Heathcliff.
C'est le fils légitime, quoi.
D'accord.
Parce que quand il arrive, il y a Hindley, il y a Catherine, et il y a Heathcliff qui arrive. Et puis ils grandissent ensemble, etc.
Donc Catherine est amoureuse de son cousin.
C'est ça. La petite, la deuxième Cathy, Catherine, ouais. Elle est amoureuse de son cousin, c'est ça. Arthur.
Chose très fréquente à l'époque, hein.
C'est ça.
Ne jugeons pas.
Mais en même temps, Heathcliff est... Et Catherine, si Heathcliff est un bâtard, elle est amoureuse de son demi-frère.
Oui, aussi, oui.
Peut-être. Donc, tu vois, il y a quand même un truc aussi très incestueux, très... Ouais, moi, je trouve que ça fait très tragédie antique, quoi. Et moi, ce que je trouve énorme, c'est cette fin, parce que tout le roman est très noir et tout, mais la fin est quand même belle, dans le sens où on voit une lueur d'espoir. Et ces deux personnages-là, Cathy et Harton, ils représentent un petit peu, justement, Catherine, la première... sa mère et Heathcliff, mais qui n'ont pas eu les mêmes conditions, la même éducation, les mêmes chances, qui n'ont pas tout à fait été élevés de la même manière, ou presque. Et du coup, leur réaction est différente. Et eux, ils arrivent à faire de leur amour quelque chose de beau, etc. etc. Parce que Harton, ce qui est assez fou, c'est que Heathcliff, en fait, il va l'élever comme son fils, mais en le maltraitant. Donc il lui apprend ni à lire ni à écrire. Enfin, c'est vraiment le truc. Alors qu'il est censé être propriétaire, hein, c'est lui qui est censé hériter de tout, quoi. Et en fait, une espèce de gros lourdeau qui sait rien faire, quoi. Et justement, la petite Cathy va participer à son éducation. Voilà, donc c'est vraiment tout un truc comme ça, de passion dévorante, et puis ouais, de choses malsaines aussi quand même, parce que bon, il y a un petit côté incestueux aussi, hein, faut dire ce qui est, même si à l'époque c'était, ça passait plus qu'aujourd'hui, mais bon, quand même, quoi.
Non, à chaque chapitre, on est en train de, le lecteur se dit, mais non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ou ne recommence pas ça, mais c'est non, ça. Mais ta mère a fait la même connerie, arrête, fais pas ça, quoi. Et il y a une espèce de destin tragique qui tourne en boucle. J'avais trouvé que c'était assez circulaire, quoi, comme histoire, parce que les drames se renouvellent de génération en génération.
Mais c'est exactement ça. Et c'est vraiment, voilà, ce truc de, ouais, du destin tragique, quoi.
Puis il y a le climat, j'aime beaucoup le climat de, vraiment, c'est, ouais, cette maison, où, qui est toujours bruyante parce que le vent s'y engouffre, qui est sombre, on la sent délabrée. On a un peu de mal à imaginer cette maison-là, il y a plein de pièces, moi je l'imagine vraiment biscornue, des pièces rajoutées les unes aux autres sur un bâti d'origine, très sombre, ouais, un peu château hanté, quoi, maison hantée.
C'est ça.
Très glauque, très lugubre.
Ouais. Et puis là, c'est là où on rejoint le roman gothique. Et il y a aussi le côté la nature sauvage, quoi. Tu as les bruyères, etc. Parce que mine de rien, en fait, les enfants, quand ils se retrouvent, je veux dire Heathcliff et Catherine, et plus tard Cathy et son cousin, c'est vraiment dans la lande, en fait. Ils vont jouer ensemble dans les bruyères. Enfin voilà, il y a quelque chose aussi où la nature permet de s'échapper justement de cette maison où les vents hurlent, les hauts hurlent vent. Alors juste, je vous lis un tout petit passage, un extrait justement de cette déclaration d'amour que fait Catherine à Heathcliff, mais qu'il n'entendra jamais. Donc au moment où elle hésite par rapport à son mariage. Mon amour pour Linton est comme le feuillage dans les bois. Le temps le transformera, je le sais bien. Comme l'hiver transforme les arbres. Mon amour pour Heathcliff ressemble aux rochers immuables qui sont en dessous, source de peu de joie apparente, mais nécessaire. Nelly, je suis Heathcliff. Il est toujours, toujours dans mon esprit. Non comme un plaisir, pas plus comme je ne suis toujours un plaisir pour moi-même, mais comme mon propre être. Ainsi, ne parlez plus de notre séparation, elle est impossible. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cet extrait, c'est le rocher immuable qui est en dessous, immuable et nécessaire. Comme si cet amour-là, il pouvait pas être autre, quoi. C'est juste, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ce qui est intéressant, c'est que Heathcliff, en fait, j'ai vu que ça voulait dire la bruyère sur la falaise. Alors là, quand même, le petit clin d'œil, quoi.
Ouais. Celui qui s'accroche, en fait.
C'est ça.
Ouais.
Oui, parce que c'est ça, Heathcliff, c'est de la mauvaise herbe. Hein. C'est la ronce, là, qui pousse partout. Voilà, en tout cas, ça vaut le coup de le lire, ne serait-ce, même si on n'aime pas forcément les romans d'amour, etc., ne serait-ce que pour voir le plan machiavélique que met en place Heathcliff.
Prenez votre temps, ouais, pour le lire. Moi, je dirais aussi que c'est un livre d'ambiance. Voilà.
Oui, c'est ça, ouais. Il y a une ambiance vraiment très particulière. Et puis, ça fait 380 pages. Donc, mais franchement, ça se lit tout seul. Hein. Moi, je ne l'ai pas quitté, ce bouquin. Je l'ai traîné partout, je le lisais tout le temps. Et puis, aussi, il y a pas mal d'adaptations au cinéma et à la télé. Et qui se valent plus ou moins. La dernière en date, c'est du réalisateur Andrea Arnold, en 2012, que tu as vu, parce que je t'avais passé le DVD, et qui, pour moi, est magnifique. Enfin, et justement, souvent, les adaptations, il n'y a pas toute l'histoire. Souvent, c'est juste la première partie, en fait.
Bah là, c'est le cas, ouais.
Là, c'est le cas. C'est juste Heathcliff et Catherine, et pas les enfants, après. Voilà, en tout cas, voilà, Emily Brontë, elle a fait grave... Elle a fait un truc de fou, quoi. Ma super conclusion.
Bravo, Émilie. Là, je m'adresse à l'auteur.
C'est ça. Bravo, Émilie. Voilà, donc en gros, un super bouquin, un grand classique à lire, même si c'est vrai qu'au début, on se dit, pour les hauts du relevant, c'est quoi encore cette histoire à la con, là, ça va être gnagnan. Et pas du tout. Au contraire, hein, franchement, c'est plus, faut s'accrocher, quoi. Il faut s'accrocher.
Bien. On passe un peu de musique ?
Ouais.
Allez.
Allez, on passe tout de suite...
C'est l'album Pitocha, un groupe dans lequel il y a Old Olaf. Voilà.
D'accord.
Une chanson pour enfants, chanson engagée.
Ben ouais, forcément.
Il s'appelle Les Petits Riens.
Une poupée qui pleure ou un Tamagotchi. Un pistolet laser, le même que sur Gulli. Jeux vidéo, Luigi et Mario. Tous ces cadeaux, j'en ai bien trop. Le bar à gris, des dessins animés, moins 20% sur le dernier coffret Disney. Nouveau robot, nouveau Made in China, c'est cadeau là, j'en ai plein les bras. Papa, maman, je suis en pleine croissance pour mes 10 ans. Écoutez-moi bien, apprenez-moi. Coca-Cola, je dois secouer sinon la pulpe elle reste en bas. Quand H&M me tape sur le système, on va flencher, je vais bientôt craquer. Papa, maman, vous avez de la chance, car aujourd'hui, parce que je le vois bien, apprenez-moi plutôt la décroissance, c'est petit rien, je n'en ai pas besoin.
Écoute ça, Digimon, Pokémon, Hippolypod, iPhone,
Pet Shop, Charlotte, bracelet en plastoc, Polypocket, Barbie, Fais dans Mango, Musique, Beyblade, Transformers, Calendar, Solo Kitty, Pika Pika Pikachu, il est pas mignon du tout, McQueen et Martin,
sont pas des vrais copains.
Et toi, t'as mis ton frigel?
Pas pour les déprimer, allez à l'UGC,
manger des hamburgers trop gras et trop salés,
au paradis du centre commercial.
Mais mercredi, j'y mettrai plus le pied.
Emmenez-moi dans une caravane, pareil qu'il y a des gens qui vivent dans la taïga.
Apprenez-moi la cuisine occitane,
le mystérieux langage des Incas.
Papa, maman, puisque la terre est ronde, pour mes 10 ans, écoutez-moi bien. Allons ensemble découvrir le monde, c'est plus malin que faire les
Elle va rester très longtemps dans la tête, hein. C'est le genre de ritournelle qui reste coincée.
Bon, alors là, on change complètement d'univers, hein.
Oui,
ça va être deux chroniques.
Jeunesse maintenant. Et, j'allais dire plus légère, mais pas tant.
Ouais, grave, parce que c'est.
Tu as aimé la musique.
Mais trop, j'ai trop aimé. Mais c'est quoi cette musique de fou là qui correspond trop à la réalité des choses?
C'est une chanson anticapitaliste de promotion de la décroissance et c'est justement en lien avec le thème d'aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est un thème pour les parents qui veulent faire de leurs enfants de petits bolcheviques ou du moins des citoyens avertis et critiques. On va parler des livres de littérature jeunesse engagés.
Alors, je vais commencer.
Alors, j'ai pris trois livres. Je ne sais pas si on aura le temps de présenter les trois, mais en tout cas, on va commencer par le premier. Alors, le point commun de ces trois livres, ce serait de casser un peu les hiérarchies. Voire parfois d'appeler à se révolter. Donc trois dangereux brûlots anarchistes, vous allez juger par vous-même. Le plus connu, le plus célèbre de ces dernières années, c'est le fameux « L'illustre tous à poil ». Qu'affaire, tu connais ?
J'en ai entendu parler.
Ouais. Tout le monde en a entendu parler, donc de Marc Dagneau et Claire Franck. Alors c'est un album paru en 2011, il a reçu, aux éditions du Rouergue, hein, c'est une édition d'ici, il a reçu le prix du meilleur album francophone en Belgique, et bon, il a obtenu en 2011 un succès confidentiel, il a atteint 1500 ventes en France. Bon. Jusqu'à ce que, en 2014, et là, c'est une belle histoire que je vais vous raconter, un peu un conte de fées, JFC, dit Jean-François Copé,
wow.
À l'époque président de l'UMP, attaque ce livre, car il y dénonçait la remise en cause des figures d'autorité et le danger qui menaçait l'intimité des familles par ce petit livre de 20 pages. Résultat, les ventes de Tous à poil ont explosé. Il a doublé sur Amazon, il a doublé ses ventes en 3 jours et je sais plus à combien il est arrivé. C'est à cette époque-là que je l'ai connu et que je l'ai acheté avant même d'avoir des enfants pour ce petit plaisir gratuit qui est de faire chier Jean-François Copé. Alors, Jugez-vous, alors vous jugerez vous-même de la dangerosité de ce livre. Le livre présente une série de personnages qui sont issus de l'univers des jeunes enfants. Il y a le bébé, la babysitter, la maîtresse, les voisins, les dames de la cantine, et tous se déshabillent sous l'injonction de à poil. À poil la babysitter, à poil la boulangère, à poil mamie, à poil le policier, etc. etc.
Ce serait trop bien si ça marchait pour de vrai, t'imagines? Tu vas dans la rue, tu dis à poil le conducteur de bus, à poil.
Je n'ai pas tout à fait envie de partager tes fantasmes cafards sur les conducteurs de bus. Hein. On en reparlera après l'émission. Bon, ici, les personnages sont souriants. On a l'impression qu'ils dansent tout en se déshabillant. Alors, les auteurs ont expliqué leur intention. Les enfants sont environnés d'images de corps plus ou moins dévêtus, dans la pub, sur les abribus, sur les couvertures des journaux People. Et ces images sont souvent trafiquées, tronquées, modifiées soit par la chirurgie esthétique, soit le plus souvent
par Photoshop.
Voilà. Et les auteurs disent, nous avons voulu poser un regard plus juste sur le corps. Alors, les personnages ont parfois les seins qui tombent, des poignées d'amour, de la bedaine, des poils, des et des fesses comme tout le monde. Et donc ce livre dédramatise la nudité auprès des enfants. On a tous des corps différents et l'important est de se sentir bien dedans. Et à poil, le statut social en prend un sacré coup. C'est peut-être ça qui dérange Jean-François Copé. Mais qu'il se rassure, se mettre nu, se dévoiler aux autres ne peut être qu'un choix personnel, librement consenti, et personne n'obligera Jean-François Copé à enlever son costard. Voilà. Donc on dit merci quand même à Jean-François Copé d'avoir sublimé sa connerie, en quelque sorte, pour nous faire découvrir ce livre, je dirais, à partir de 2 ans.
Ouais, mais c'est super parce que...
J'oublie de dire en plus que la fin du livre, c'est pas un gros spoil, mais il se déshabille tous pour aller à la mer, se baigner dans une plage naturiste. Et c'est très agréable de se baigner tout nu dans la mer. J'ai testé et je vous recommande vraiment.
Ouais, moi aussi j'ai testé, c'est cool.
Ouais, c'est bien. Bon. Deuxième livre, toujours aussi subversif. Alors qu'on répète aux enfants à longueur de temps qu'il faut obéir à ses parents, obéir à ses profs, obéir aux adultes de son entourage, voilà un livre qui est titré « Il faut désobéir ».
C'est bien, c'est direct, voilà. Quoi.
Paru en 2002, les auteurs sont un espèce de crossover de super-héros de la littérature française. D'un côté, au scénario, on a Didier Delinx et au dessin, on a Pef pour Pierre Elie Ferrier. Alors vous connaissez ces deux auteurs. Pef, c'est l'auteur notamment de la série du Prince de Motordu.
Ah, j'adore.
Et oui, avec la Belle Espoir, par exemple, du Prince de Motordu. Il y en a toute une série, pendant 20 ans il en a fait.
J'adore le Prince de Motordu.
Et Didier Denin, c'est un auteur de polar dont la particularité est de se servir comme prétexte d'une enquête policière pour nous faire redécouvrir des événements oubliés de l'histoire, comme par exemple ce fut le cas dans son roman policier Meurtre pour mémoire, où il a fait redécouvrir le massacre des Algériens en octobre 61 pendant la guerre d'Algérie, mais à Paris. Il y a eu plusieurs centaines d'Algériens qui ont été tués par la police française et jetés à la Seine. Et c'était une page de l'histoire complètement occultée et c'est Didier Delinx qui l'a rappelé. Alors ici, il prend le même principe, il part d'une histoire vraie, celle de Pierre-Marie, un inspecteur de police qui, avec 7 autres collègues du commissariat de Nancy, ont sauvé en juin 42 300 juifs en désobéissant aux ordres du gouvernement de Vichy. Donc les thèmes ici sont l'antisémitisme, la ségrégation des juifs pendant la guerre, la collaboration et donc les autorités et les ordres illégitimes qui s'opposent aux responsabilités morales de chaque individu. Et, nous dit le livre, rester en accord avec ces valeurs, et ben des fois ça sauve des vies.
Ouais. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je pense qu'on le fait exprès de pas, à l'école en tout cas, inciter les élèves à remettre en question l'autorité, alors que l'autorité, elle est pas forcément bonne, quoi.
Ça examiner peut... aussi la légitimité,
voilà.
D'une
autorité, d'un ordre. C'est ça aussi être un citoyen, quoi. Remettre en question ce qu'on nous dit, quoi.
Tous les ordres ne sont pas propres à être exécutés. Il faut savoir les remettre en question. Donc ici, on a le point de vue de 2 enfants juifs pendant la guerre, puis ensuite de leur petite fille, 60 ans plus tard, qui se fait raconter l'histoire, justement, de ces enfants cachés grâce à Pierre-Marie, donc qui a vraiment existé, qui a été décoré 60 ans plus tard, quand même, par les autorités françaises. Ça, je dirais, c'est pour 9-10 ans. Et troisième livre, c'est un coup de cœur que j'ai eu au Festival du Livre Jeunesse de Saint-Radegonde.
Magnifique festival.
Ouais, à la Toussaint, la dernière fois. C'est un livre qui est aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble, fait par Yann Fastier, s'appelle Zapata est vivant. C'est un album, parce que des fois, quand désobéir ne suffit plus, il faut aussi se révolter et garder l'espoir malgré les temps difficiles et la violence que les pouvoirs autoritaires peuvent infliger aux populations. Alors moi, je l'ai feuilleté sur le stand de l'atelier du poisson soluble et il m'a filé la chair de poule. Je l'ai acheté aussitôt. On nous parle de l'histoire de Zapata, ce révolutionnaire mexicain du début du XXe siècle qui a été assassiné. Il tombait dans un traquenard parce qu'il dérangeait le pouvoir en place à ce moment-là. Ça commence par, ils ont tué Zapata, ils l'ont tué quand il était forêt, mais Zapata n'est pas mort. Et on a toute une déclinaison, ils l'ont tué quand il était rivière, mais Zapata n'est pas mort. À chaque fois, on a cette injonction, Zapata n'est pas mort parce qu'il revient dans l'esprit de la forêt, du poisson, et aussi dans l'esprit des luttes populaires. Alors, il y a un duo de pages, à chaque fois qu'on évoque l'aspect négatif, donc quand ils l'ont tué, quand il était forêt, on a un dessin en noir et blanc de crâne, de squelette, qui peut rappeler un peu les dessins de Frida Kahlo.
Ouais. Vous voyez ? Ouais, ça fait très, très dessin mexicain.
Ouais, ouais. C'est ça, ouais. Donc ils sont, ça peut faire peur aux petits, hein. Et le contrepoint, quand Zapata n'est pas mort, on a des images en couleur très luxuriantes, très jolies. Vous voyez là, je montre à Kaffer la forêt en vert, violet, rouge. On a, par exemple, ils l'ont tué quand il était maïs. Donc là, on a un squelette qui brûle un champ de maïs. Et de l'autre côté, on a des beaux épis de maïs avec une statue maya à côté, tout en vert coloré. C'est toujours sur une double page, c'est des lignes très claires et très agréables à lire. Voilà, très joli dessin et à la toute fin, on a une double page sur l'explication de qui était Emiliano Zapata et qu'est-ce que c'est que le mouvement zapatiste aujourd'hui. Donc ce sont des communautés indigènes qui se sont auto-organisées, qui sont égalitaires, autogestionnaires, qui ont monté leurs propres écoles, qui font un gros travail sur l'égalité hommes-femmes aussi au sein du Mexique. Et c'est intéressant là aussi. Pour 9-10 ans aussi, 9-10 ans, 11 ans, même si c'est un album, voilà, c'est... très bel album, très beau graphisme que je voilà moi c'est moi il m'a touché d'abord et voilà.
Ouais, c'est plus un album pas forcément enfin ça interroge quoi.
Ouais,
c'est plus un truc où genre tu lis le il était mort et puis après etc et où tu te dis ah mais du coup qu'est-ce qui a changé enfin voilà.
C'est un peu un petit bouquin d'espoir. Voilà. Donc j'aurais dit les trois titres, Tous à poil de Claire Franek, Marc Darniaud, Il faut désobéir de DJ Denax et Pef et enfin Zapata est vivant de Yann Fastier et vous aurez des enfants qui ont une petite culture de contestataire et ça fait pas de mal.
C'est clair. Merci Monsieur Mi.
De rien, je vous en prie. Bon. Un peu d'actualité littéraire pour terminer cette émission.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors.
Alors
là, c'est pas en Aveyron. Il se passe quelques trucs en Aveyron, mais c'est quelque chose de national. Mmh. Je me demande même si c'est pas international, mais en tout cas, c'est sûr, c'est national. On est au mois de mars.
Ouais.
Donc c'est le. Dans quelle saison on va rentrer ?
Le printemps.
Ouais.
Ah.
Le printemps des.
Des poètes.
C'est ça, ouais. Le printemps des poètes. Donc, j'adore, moi, le printemps des poètes, parce que c'est vraiment... Il y a toujours des petites manifs, droite à gauche, des petits poèmes collés, ou des trucs comme ça, c'est toujours assez intéressant. Donc, cette année, il y a encore beaucoup de choses, je vais pas parler de tout, parce que ça va être trop compliqué, sinon. En tout cas, à Rodez, à la menuiserie, le vendredi 16 mars, on a à 20h30 des lectures théâtralisées.
15 mars, je pense que c'est...
Ouais, c'est moi qui écris mal, ouais, pardon. Vendredi 15 mars, à 20h30, à la menuiserie, donc des lectures théâtralisées. Mm-hmm. Et toujours à la menuiserie aussi pour clôturer le printemps des poètes. Le dimanche 31 mars, pareil, lecture à trois voix à 18h. Et après, bon, il y aura encore d'autres choses en ville, etc. Souvent, les collèges et lycées font des petites choses aussi, mm-hmm. Bon, au sein des établissements, en règle générale. Et du coup, le printemps des poètes, cette année, c'est un peu particulier parce que il fête ses 20 ans. Mmh. Officiellement, c'est du 9 au 25 mars. Chaque année, il y a un thème particulier et cette année, c'est la beauté.
Oh.
Vaste sujet, la beauté.
Et voilà. La menuiserie est un très joli lieu, d'ailleurs, un très beau,
exactement.
Très bel endroit qu'il faut voir. C'est quelle rue, je sais plus.
11 novembre.
Rue du 11 novembre, perpendiculaire à la rue Béteille.
C'est ça.
Allez-y, voir, jetez un coup d'œil, c'est un bel endroit sur Rodez.
Oui, il y a souvent des choses très sympas à la menuiserie. Ouais. Donc voilà, le printemps des poètes, c'est vraiment l'occasion de justement de revenir un peu à la poésie, de la redécouvrir.
Ça fait jamais
ça
mal.
Fait toujours plaisir, oui, c'est ça. Il y a toujours des belles choses en poésie. On trouve toujours un petit poème qui nous plaît. Bref, mettez de la poésie dans votre vie pour ce printemps des poètes, ouais, pour les 20 ans du printemps des poètes. Mmh. Et aussi, alors là, on n'est pas du tout dans l'actualité littéraire, mais quand même, on va en parler rapidement parce que c'est quand même super important. Le samedi 16 mars, mmh, on a la marche pour le climat.
La marche internationale pour le climat.
Merci. La marche internationale pour le climat. Et on se donne rendez-vous à Rodez à 10h30 au jardin public au kiosque.
Voilà. Et sachant que pour les lycéens, il y aura une manif lycéenne le 15 mars aussi à 9h. Il y a un appel à la grève des lycéens. Là aussi, c'est un appel international qui est parti de Suède, qui a essaimé en Belgique, en Autriche, et qui arrive en France maintenant.
Par rapport au climat aussi.
Par rapport au climat aussi, les jeunes se mobilisent donc pour demander une vraie politique de mobilisation nationale et internationale pour essayer de sauver un peu ce qui reste de notre planète.
Ouais. Les jeunes sauveront le monde.
Ouais, on en
espère. Je l'espère, en
tout
cas.
Ça m'intéresse, bouger. Ouais.
Ouais. Ouais, bougez-vous tout de suite. Hein. Ouais. Venez dans, là, le 15 et le 16. Hein. voilà. Et toi, alors, tu veux nous terminer par une petite citation?
Ouais, j'en ai trouvé une, toujours sur les intellectuels. Ici, il s'agit de Alan Patrick Herbert, romancier anglais, qui nous dit: un intellectuel est quelqu'un qui regarde une saucisse et qui pense à Picasso.
Elle est trop bizarre, cette citation. Bon, mais sur ces bonnes paroles, hein, on termine cette émission des Blablates. C'était les Blablates sur CFM Rodez 107.9. On vous dit à très vite.
À très vite, ciao.
Salut Cafard.
Salut Cancrola.
Qu'est-ce que tu fais sur CFM?
Je blablate de vieux bouquins. Et toi?
Ah, bah c'est rigolo, moi je blablate de livres jeunesse.
On n'a qu'à faire une émission ensemble.
Les blablates, c'est une fois
par mois,
le mercredi à
19h
et le samedi à
13h
sur CFM
107.9.